Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Emmanuel Macron confirme l'objectif de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français, mais il retarde la fermeture de plusieurs réacteurs. Un choix qui marque une évolution par rapport au quinquennat de François Hollande. Les explications de Maïwenn Bordron dans un instant. Le président a aussi tenté de calmer la colère des gilets jaunes. Un dispositif fiscal destiné à corriger les trop fortes hausses du pétrole va être mis en place. Nous verrons cela avec Laura Dulieu. Emmanuel Macron critiqué par toutes les oppositions de gauche comme de droite, le reportage à l'Assemblée d'Alexandra Dubucheron. Le scandale des prothèses de hanche, nouvelle révélation des implants files, la grande enquête des journalistes d'investigation à laquelle Radio France participe. Abdellah El Idrissi a enquêté sur les dérives constatées à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. La Russie rejette les critiques occidentales après la capture de 3 navires ukrainiens dans le détroit de Kerch. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était à Paris aujourd'hui. Une rencontre suivie par Éric Biegala. Je n'ai pas été élu sur un programme de sortie du nucléaire. Emmanuel Macron a tenu à mettre les choses au point ce matin en présentant la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais le chef de l'État s'est empressé d'ajouter qu'il entendait réduire le nucléaire dans le mix énergétique. Bonsoir Maïwenn Bordron.
Bonsoir.
Le programme nucléaire d'Emmanuel Macron reprend l'objectif de son prédécesseur François Hollande, mais le calendrier des fermetures de réacteurs a changé. Les échéances ont été repoussées.
Réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité, c'est un vieux serpent de mer, une patate chaude que les présidents se passeraient de quinquennat en quinquennat. C'était l'une des 60 promesses de campagne de François Hollande, réduire à 50% la part du nucléaire d'ici 2025 et fermer la centrale de Fessenheim. À la fin du quinquennat de François Hollande, ce n'est plus une surprise, aucun de ses objectifs n'a donc été atteint et c'est donc Emmanuel Macron qui récupère ce dossier épineux. Avec l'annonce dès l'année dernière par Nicolas Hulot d'un report à 2035. Ce matin, dans son discours, Emmanuel Macron a acté le report de l'objectif. Oui, 14 réacteurs nucléaires vont fermer d'ici 2035 et non plus en 2025. Parmi les 14 réacteurs, les deux de Fessenheim seront fermés avant l'été 2020, seul engagement qui concerne finalement le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour les 12 autres, il faudra attendre entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs pourraient par ailleurs être fermé dès 2030. C'est moins que ce qu'espéraient les écologistes, mais c'est plus que ce que réclamait EDF. Le groupe souhaitait qu'aucun autre réacteur ne soit fermé d'ici 2029, à part ceux de Fessenheim. Il s'agit donc d'un compromis entre les deux camps. À part ces dates butoirs, aucun calendrier précis n'a été fixé. Emmanuel Macron a juste précisé que le rythme évoluerait en fonction de l'évolution du mix énergétique en France et en Europe. Écoutez-le.
C'est donc, vous l'avez compris, une approche pragmatique et adaptative que nous avons décidé d'adopter. Une approche qui ne préempte pas les décisions de l'autorité de sûreté nucléaire, parce que peut-être pour des raisons de sûreté nucléaire serons-nous amenés à fermer tel ou tel réacteur ou telle centrale. Nous devons aussi prendre en compte les éléments de sécurité de nos approvisionnements. Je ne veux pas que nous nous précipitions à fermer des centrales si c'est pour réimporter de l'énergie produite d'ailleurs moins bien que chez nous aujourd'hui, et dépendre d'autres économies.
Vous l'avez entendu, le flou reste de mise quant au calendrier de fermeture des réacteurs nucléaires. Un flou qui demeure également autour de la position d'Emmanuel Macron sur le nucléaire. Le président de la République l'a ainsi rappelé ce matin, réduire la part du nucléaire, ce n'est pas pour autant y renoncer.
Maïwenn Bordron, merci. Emmanuel Macron a aussi indiqué qu'il ne prendrait aucune décision concernant la construction de nouveaux EPR d'ici 2021. Le chef de l'État était aussi très attendu sur le mouvement des Gilets jaunes et il a d'emblée balayé l'idée d'un gel des taxes sur le carburant alors qu'une nouvelle hausse est programmée en janvier. En revanche, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un dispositif fiscal visant à corriger les trop fortes hausses du pétrole. Laura Dulieu, bonsoir.
Bonsoir.
Ce dispositif rappelle la TIPP flottante mise en place par le gouvernement Jospin entre 2000 et 2002. En réalité, il faudra vraiment une envolée des cours du pétrole pour qu'il entre en application.
Rien à voir en réalité avec cette TIPP flottante. À l'époque, l'idée était de réduire purement et simplement cette taxe quand le prix du pétrole était trop haut. Là, il s'agit juste de suspendre ou réduire la hausse de fiscalité prévue pour l'année en cours. Et ce, seulement en cas de réelle envolée des cours du pétrole. Car pas question de revenir à la TIPP flottante. Une promesse non tenue et intenable, ce sont les mots du ministre de l'écologie, François de Rugy. On ne veut pas flotter au gré des évolutions du marché. Le gouvernement ne prend donc pas énormément de risques pour le moment. Le prix du baril de pétrole est en baisse aux alentours de 50 dollars, bien en dessous par exemple des 100 dollars en 2011.
Laura, Emmanuel Macron a été plus discret sur les autres mesures destinées à accompagner la transition écologique, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments.
Et oui, et l'isolation thermique des logements. Les artisans et les associations écologistes ont de quoi être déçus. Pas de réelle avancée en la matière parmi les annonces de l'exécutif. Le CITE, Crédit d'impôt rénovation énergétique, sera étendu aux propriétaires bailleurs et augmenté pour les ménages les plus modestes, mais pas avant 2020. En 2019, l'enveloppe du CITE est divisée par deux et surtout, elle ne concerne pas le changement de fenêtre. Cette mesure était pourtant très attendue. Mettre du double vitrage, c'est la solution la plus rapide, facile et efficace pour faire baisser sa consommation d'énergie. Ce cadeau fiscal pour les particuliers a été supprimé en 2018. Beaucoup espéraient son retour, mais ce ne sera pas pour 2019.
Laura Dulieu, merci. Les annonces du président n'ont pas du tout convaincu les Gilets jaunes. Emmanuel Macron n'a ni écouté ni entendu la colère, affirme Cédric Guémy, porte-parole du mouvement dans le Val-de-Marne. Interrogé sur France Info, Cédric Guémy estime que, je cite, « les gens dans la rue demandent un peu plus de pouvoir d'achat en fin de mois ». Emmanuel Macron, qui a aussi échoué à convaincre l'opposition, ou plus exactement les oppositions. Bonsoir Alexandra Dubouchereau.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
À l'Assemblée, à gauche comme à droite, on critique les annonces du chef de l'État qui se serait montré incapable de répondre aux inquiétudes des Français.
Oui, l'opposition a tiré à boulet rouge tout à l'heure, avant même les questions au gouvernement, en passant d'un micro à l'autre. Nicolas Dupont-Aignan ne mâche pas ses mots.
Il n'y a rien. J'avoue, je m'inquiète pour la santé mentale du président. Après une crise aussi forte, il ne répond que par un discours complètement verbeux, complètement creux. Mais est-ce qu'il se rend compte de ce que vivent nos concitoyens? 20 millions de Français qui n'y arrivent plus.
Et le député de l'Essonne appelle les Gilets jaunes à poursuivre la pression. Pour Marine Le Pen aussi, le discours du président de la République était creux. Et pour cause, selon la présidente du Rassemblement National.
Ils n'ont pas de députés? Je sais pas, vous savez, dans les autres majorités précédentes, très souvent, vous entendiez les ministres dire « Oulala, nos députés, ils sont rentrés du terrain, ils nous ont dit qu'en ce moment, ça chauffe. Hein. » Mais là, il n'y a pas de députés en marche. Il y a le gang des moufles qui est à l'Assemblée, là, qui applaudit. Mais ils vont pas sur le terrain.
Du côté des élus Les Républicains, comme de leurs 5 présidents de région, ce matin, on appelle toujours à un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants. En fait, pour trouver un point positif, il faut se tourner vers le groupe Liberté et Territoires. Son co-président Bertrand Pancher salue la mise en place d'une concertation sur le terrain, sur le pouvoir d'achat, et ce pendant 3 mois.
Je trouve que Faut avouer est à moitié pardonné. Il veut remettre en place une nouvelle méthode par le biais de concertations généralisées. Je trouve que l'idée est très bonne, si et seulement si on associe toutes celles et ceux qui ont été à l'origine de mobilisation. Il est indispensable de crever l'abcès entre un pouvoir trop centralisé et des gens qui sont complètement perdus.
Mais 3 mois, c'est un peu loin. Il n'en fallait pas tant pour les mesures fiscales en faveur des plus riches, rappelle une députée socialiste dans l'hémicycle. Encore 3 mois, monsieur le bourreau, ironise de son côté sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, le dirigeant de la France Insoumise.
Alexandra Dubouchereau, merci. Nous poursuivons ce soir nos révélations sur les implants Files, cette grande enquête conduite par le Consortium international de journalistes d'investigation. Bonsoir Abdelhakel Idrissi.
Bonsoir.
Vous nous révélez ce soir qu'à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, des chirurgiens orthopédistes ont pris des patients pour des cobayes. Ils leur ont implanté des prothèses de hanches qui n'avaient aucune homologation.
Le scandale se déroule en 2011. Deux chirurgiens acceptent d'implanter 4 prothèses de la marque CeraVer. Problème, le biorevêtement antibactérien qui recouvre ces implants est encore officiellement en phase de test sur des animaux. Après l'opération, 2 patients vont connaître des complications. C'est notamment le cas de Fernando, un retraité. Et bien pendant 2 ans, sa fille, Elisabeth, va assister impuissante au calvaire de son père.
Après que mon père s'est fait opérer, il a eu 2 luxations. Il avait des douleurs qui étaient insupportables, malgré tous les antidouleurs qu'on lui prescrivait. Malgré qu'on allait aux urgences, rien n'y faisait. On nous disait toujours qu'il fallait laisser le temps au temps. Et en fin de compte, on a été complètement dupés, arnaqués, manipulés Voilà, c'est impardonnable.
Son père se fera finalement retirer sa prothèse suite à la révélation dans la presse d'une partie de l'affaire en 2013.
Mais ce que vous nous révélez aujourd'hui, Abdelhak, c'est qu'une enquête judiciaire a ensuite été ouverte.
Oui, dans la foulée d'un signalement de l'Agence de sécurité du médicament, elle-même alertée par le courrier anonyme d'un salarié de CeraVert, l'enquête judiciaire va permettre de découvrir l'ampleur du scandale. Le fait que les patients n'étaient pas consentants, contrairement à ce qu'affirmait le patron de CeraVert au départ, le PDG qui s'appelle Daniel Blancard, qui avoue finalement aux enquêteurs ce qu'était sa réelle motivation. Voici un extrait de sa déposition que nous avons fait lire.
Je souhaitais marquer mon territoire, compte tenu de l'intérêt que portaient certains groupes concurrents américains et européens. Et cela était une grave erreur de ma part. On savait que tout ceci était illégal.
Marquer son territoire, mais aussi anticiper le départ à la retraite d'un chirurgien orthopédiste spécialiste de l'infection des implants, le professeur Alain Lorta-Jacob. Il a lui aussi reconnu les faits devant les enquêteurs et devant la juge d'instruction. Ses propos également lus par un journaliste.
Je me doutais bien que sur le plan administratif, ça frottait un peu sur les bords. Je suis conscient qu'une infraction a été commise sur le plan réglementaire pour ce qui est de l'implantation d'une prothèse, mais il y avait la certitude de l'innocuité du procédé.
Ce qu'on a découvert il y a quelques semaines, c'est que le PDG, sa société et le professeur Lorta-Jacob seront jugés, et donc c'est l'autre révélation, lors d'un procès à Pontoise l'année prochaine.
Et la prothèse expérimentale, qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Eh bien, l'entreprise CeraVert a soumis une demande d'essai clinique qui a finalement été acceptée fin 2016. Un essai clinique légal est donc en route. 100 patients ont déjà été implantés. Ils sont répartis sur au moins 3 hôpitaux, dont l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, là même où ont eu lieu les opérations illégales.
Abdelhak El Idrissi, merci. Votre enquête et toutes les enquêtes des Implants Files à retrouver bien évidemment sur franceculture.fr. C'était une promesse du gouvernement dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Une plateforme de signalement en ligne a été mise en place aujourd'hui. Un portail accessible depuis tous les supports numériques, ordinateurs, tablettes ou smartphones. Marion Aquilina, l'objectif est d'accompagner les femmes victimes de violences vers le dépôt de plainte.
Oui, c'est une plateforme numérique qui s'apparente à une discussion en ligne avec un policier ou un gendarme. Il ne s'agit donc pas de déposer une plainte en ligne, c'est uniquement un accompagnement. C'est ce que comprend Françoise Brié, présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes.
Ça doit rester un outil complémentaire à l'existant, voilà, en sachant que l'écoute téléphonique du 3919, elle est vraiment essentielle pour les femmes qui souhaitent appeler, être en contact direct avec une voix, aussi avec de l'écoute empathique et puis ensuite pour être informées et orientées. De ce que moi je comprends de cette plateforme, c'est plutôt un outil voilà, destiné à informer sur les démarches policières et rassurer aussi les femmes et les victimes sur ce que peuvent représenter le dépôt de plainte, éventuellement les mettre en contact ensuite avec les services de police et de gendarmerie.
Derrière ce nouveau portail, 37 policiers et gendarmes sont mobilisés. Ils ont été formés pour pouvoir conseiller les victimes, mais ce n'est pas suffisant. D'après la présidente du collectif féministe contre le viol, Emmanuelle Piette, elle estime que la France pourrait s'inspirer des centres de prise en charge des violences sexuelles en Belgique.
Vous savez, à Gand, à Bruxelles, il y a une brigade de policiers sélectionnés, formés, qui vont venir sur place, auditionner dans un endroit confortable. Après ça, ils viennent en civil pour te ramener si jamais tu veux rentrer chez toi pour pas se faire repérer, quoi. Donc c'est quand même, vous voyez, une très grande attention aux personnes qui fait qu'il y a plus de plaintes prises et dans des conditions plus accessibles pour les victimes.
Reste que si le nouveau portail français devrait contribuer à faciliter le dépôt de plaintes, 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite en France, selon le ministère de la Justice.
Marion Aquilina, merci. Ce portail est accessible à l'adresse suivante, signalement-violence-sexuelle-sexiste.gouv.fr. La plainte pour viol déposée contre le député Rassemblement National Gilbert Collard a été classée sans suite fin octobre. Les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille n'ayant pas établi les faits allégués. L'enquête avait été ouverte après la plainte d'une femme le 12 juin à Fréjus dans le Var. Elle affirmait avoir été violée par Maître Collard à son cabinet d'avocat à Marseille en 2006 et 2007. L'Occident peine à répondre au nouveau coup de force de la Russie. Dimanche soir, les Russes ont capturé 3 navires ukrainiens et leur équipage dans le détroit de Kerch, à l'entrée de la mer d'Azov. 24 marins ont été mis en détention. Un abordage dénoncé, bien sûr, par les Américains et les Européens, avec à chaque fois le souci de ne pas envenimer une situation qui pourrait dégénérer en conflit armé, d'autant plus que l'Ukraine a instauré la loi martiale. Illustration de cette prudence, aujourd'hui à Paris, avec la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il a rencontré son homologue français Jean-Yves Le Drian. Bonsoir Éric Biégala.
Bonsoir Stanislas.
Vous avez suivi cette rencontre Le Drian-Lavrov.
Oui, le passage de Sergueï Lavrov à Paris, prévu sur de tout autre sujet, a bien entendu été l'occasion d'aborder la crise ukrainienne autour de la mer d'Azov. À ce propos, Jean-Yves Le Drian s'est fait le relais auprès de son homologue russe de la position des Occidentaux en général, qui tous demandent quelques signes d'apaisement en provenance de Russie.
J'ai dit à Sergueï Lavrov qu'un geste était attendu de la Russie, que les prisonniers et les bateaux retenus soient libérés au plus vite. Mais j'appellerai aussi mon homologue ukrainien pour l'encourager à rechercher la désescalade dans ce secteur. Il importe que les deux parties puissent s'engager dans un processus de désescalade.
La réponse de Sergueï Lavrov a été pour le moins laconique. Le chef de la diplomatie russe n'a pas fait mine, par exemple, de promettre la prochaine relaxe des marins ukrainiens ou de leurs navires. Quant à prendre langue avec les Ukrainiens, pour Sergueï Lavrov, cela ne pourrait se faire qu'à un niveau des plus élémentaires.
Je pense que sur le plan pratique, les deux services des gardes frontières des deux pays, s'il y a des questions techniques qu'il faut expliquer à la partie ukrainienne, les gardes frontières sur le terrain pourraient discuter entre eux.
On a pourtant bien du mal à imaginer comment les gardes frontières ou les gardes côtes des deux pays pourraient se mettre simplement autour d'une même table. Ce sont des gardes côtes russes qui, ce week-end, sur le détroit de Kerch, ont ouvert le feu, éperonné et finalement saisi les 3 navires ukrainiens.
Et puis Eric, la télévision russe a montré quelques-uns des marins ukrainiens détenus en Russie, des marins qui ont reconnu leur tort supposé dans une confession qui avait tout l'air d'une mise en scène.
Oui, c'est la chaîne Russie 24 qui, dès hier soir, a diffusé ces confessions de 3 des 24 marins ukrainiens détenus par les Russes. Des vidéos fournies par le FSB, les services de sécurité russes, chargés du contre-espionnage, mais qui supervisent également les gardes-côtes et qui semblent avoir en fait piloté toute l'opération côté russe. Dans ces vidéos, les 3 Ukrainiens semble réciter leur texte. L'un des 3 lit manifestement son laïus sur un prompteur. Il répète d'ailleurs les arguments avancés par la Russie depuis 48 heures, à savoir qu'ils ont délibérément et de façon provocative franchi les limites des eaux territoriales et violé la frontière russe. Depuis ce matin, ces marins ukrainiens sont les uns après les autres présentés à un juge russe en Crimée. 12 ont été formellement arrêtés. 3 d'entre eux ont d'ores et déjà été placés en détention pour 2 mois jusqu'au 25 janvier sur décision de ce juge. Leur crime, avoir justement illégalement franchi la frontière russe.
Éric Biégala, merci. 3 soldats américains ont trouvé la mort aujourd'hui en Afghanistan. Ils ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale près de la ville de Ghazni dans le centre du pays. 3 autres militaires ont été blessés dans l'attentat. Depuis le début de l'année, 12 soldats américains ont péri en Afghanistan, un pays où l'armée américaine est présente depuis 2001 et les attaques du 11 septembre. L'an dernier, à la surprise générale, Donald Trump avait annoncé un renforcement du contingent américain sur place. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Un peu plus de 14 000 militaires américains continuent de servir en Afghanistan, beaucoup moins que les 100 000 hommes déployés sur place au plus fort du conflit après les attentats du 11 septembre 2000. Néanmoins, l'Afghanistan est devenu le plus long conflit extérieur dans lequel les États-Unis ont jamais été engagés en 17 années de présence militaire dans le pays. Plus de 2400 soldats américains ont été tués. Au sein de la coalition, les États-Unis enregistrent le plus lourd tribut à cette guerre qui, sur un plan budgétaire, a déjà coûté au département de la défense près de 1 000 milliards de dollars. Sur le terrain, la mission des militaires américains a évolué depuis la fin 2014, depuis que les forces afghanes ont pris le relais des troupes de combat de l'OTAN. Désormais, les Américains servent surtout dans l'encadrement des troupes, dans la formation et aussi le renseignement. Sur le plan politique, enfin, Donald Trump avait annoncé à l'été 2017 un renforcement des troupes américaines en Afghanistan. Depuis, les États-Unis tentent de convaincre les talibans d'engager des pourparlers de paix. À cette fin, un émissaire américain a été nommé début septembre et quelques semaines plus tard, le diplomate rencontrait à Doha une délégation talibane pour entamer les premières discussions.
Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis, retour en France avec le temps demain. Mossad sur la moitié nord du pays avec un ciel faiblement pluvieux. Le vent soufflera à 70 km/h sur les côtes de Manche et la pointe bretonne. Au sud, le soleil s'imposera rapidement malgré quelques nuages élevées. Température minimale de 0 à 11 degrés du nord au sud. Les maximales contrastées s'échelonneront de 5 à 18 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.